Divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, l'Union rationaliste, une émission proposée par Emmanuel Huysmans-Perrin. Guy Bruy et Fabienne Bock, bonjour.
Bonjour.
Fabienne Bock, vous êtes historienne, professeure d'histoire contemporaine à l'Université de Marne-la-Vallée, spécialiste du Parlement au 19e et 20e siècle, et vous avez co-dirigé avec Michel Kazewitz le numéro 208 de Raison présente, revue dont vous êtes l'une des rédactrices en chef avec Michel Leduc, que nous avons entendu le mois dernier, et Roland Pfefferkorn, numéro qui forme le deuxième volet d'une réflexion stimulante menée à Raison présente sur les frontières de la vérité, réflexion de rationalistes à l'heure des fake news ou des infox et d'une tendance peut-être inquiétante au relativisme. Guy Bruy, voulez-vous présenter ce deuxième volet ?
Le mois dernier, nous avions indiqué très sommairement comment nous avions été amenés à faire deux numéros, alors qu'au départ, il n'en avait qu'un. Le deuxième dont vous allez parler aujourd'hui est consacré au faux. Alors, au faux, au singulier, au pluriel. Et il est apparu, en faisant ce numéro, que ce n'était pas une question aussi simple qu'on pourrait le penser au départ. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de subtilité dans l'exposition des faits de faux.
Absolument. Donc ce numéro qui porte sur le faux en art, en histoire, en politique, et qui donc forme avec le numéro sur le plagiat et la copie un pendant spécifique, parce qu'on pourrait le dire d'emblée comme ça, il peut y avoir des faux qui ne sont des copies de rien, Fabienne Bock. Donc, ce faux est un sujet croustillant, notamment pour les historiens. Vous, Fabienne Bock, quel a été votre premier rapport d'historienne avec le faux ?
Oh, c'est un rapport d'enseignante. J'ai été amenée assez tôt dans ma carrière à parler de l'affaire Dreyfus. Et quand on parle de l'affaire Dreyfus, on parle forcément du faux Henri, du faux fabriqué par le commandant Henri en 1896.
Le petit bleu, non ?
Le petit bleu, c'est le précédent. c'est une manœuvre assez maladroite. Quand le Picard, qui dirige nouvellement les renseignements de l'armée, penche pour l'innocence de Dreyfus, son adjoint fait une chose très maladroite. Il fabrique un faux qui incrimine Dreyfus. Très bêtement. Donc c'est en fait en tant qu'enseignante que j'ai été amenée à ça, en tant qu'étudiante en histoire, puis en plus chercheuse. Alors moi j'ai été formée à l'école dite positiviste, c'est-à-dire devant un texte, on fait la critique externe, la critique interne, on fait des recoupements, et donc on se prémunit au maximum contre les faux, bien sûr.
Parce que c'est possible.
C'est possible, j'ai trouvé la citation d'un conservateur de la Bibliothèque nationale qui dit, du cabinet des médailles, qui dit les archives de France sont pleines de faux. Donc il y a toutes sortes de faux, effectivement. La tendance naturelle, quand on commence à parler de la copie, du plagiat, c'est de voir le faux comme justement une
copie.
Une copie, voilà. Mais en fait, on a des faux fabriqués à partir de rien. Alors, il y a deux grands exemples qui sont étudiés dans le numéro. Il y a la fausse donation de l'empereur Constantin qui a servi à justifier l'existence des états du pape. On a démontré que c'était un faux. Ça a dû être fabriqué vers le 8e siècle. C'est à la Renaissance que les érudits ont démontré que c'était un faux, mais ça n'a pas empêché les états du pape de continuer. Donc c'est un collègue de Paris 1, Monsieur Delivret, qui s'occupe de cette question-là dans le numéro. Autre exemple que je détaille un peu, c'est celui évidemment du, je pense, le plus célèbre des faux, c'est le protocole des sages de Sion. Et à partir de là, et de l'exemple précédent, ce qu'il faut bien voir, c'est comment les faux sont aussi riches d'enseignements que des vrais, à condition de les avoir identifiés comme des faux.
Est-ce que vous pouvez éclairer les auditeurs sur ce protocole des sages de Sion qui
Alors,
est quand même...
C'est hallucinant, hein. C'est vrai que c'est un texte qui est apparu au début du XXe siècle en Russie. Et dès 1918, il est scientifiquement prouvé que c'est un faux et que ça n'est absolument pas l'émanation d'une organisation juive mondiale dont l'objectif serait de mettre la main sur le monde. Donc on le démontre très bien parce qu'on en trouve... Alors pour le coup, c'est un plagiat dans un sens, mais qui est complètement détourné. C'est-à-dire que le texte lui-même est repris d'un pamphlet contre Napoléon III. Et il annonce évidemment que les Juifs détiennent l'or dans le monde, que c'est la vraie source de pouvoir, la richesse, qu'ils vont extirper toute autre croyance que dans le vrai Dieu, etc. Enfin, tout un salmigondi, c'est parfaitement ennuyeux à lire, hein. C'est aussi très très indigeste, mais avec dans des tas de passages des insertions clairement d'un antisémitisme extraordinaire. Donc on sait depuis 1918 que c'est un faux. Il n'empêche que, et ça j'ai été moi-même très étonné, hein, j'ai tapé Google protocole des sages des Sion. Dans les 350 000 entrées qui t'annoncent, dans les 5 premières, il y a 2 accroches qui disent c'est peut-être un vrai. Authentique et ouais. C'est sûrement un vrai. Donc, aujourd'hui encore, il y a des gens qui propagent cette idée qu'il s'agit bien de l'émanation d'un groupe mondial. Alors,
attestant donc, au fond, le présupposé que vous, je crois, adoptez dans ce numéro, que le faux a toujours un sens, intention.
Il a un sens. Alors, pour cet exemple-là, il est clair que son objectif était plus limité, hein. C'était la police russe, sans doute liée à certaines factions de la cour, qui avait un objectif assez précis, antisémite, certes, mais assez précis. Mais ça a rencontré un antisémitisme très général.
Plus général.
Voilà. Et 100 ans après, ça existe encore, ce qui est quand même tout à fait extraordinaire.
Alors là, ça recoupe aussi ce que nous avions dit le mois dernier sur les moyens modernes et le faux, c'est-à-dire que vous citez Internet. C'est clair que le faux peut être relayé massivement et sur les réseaux sociaux et sur Internet.
Tout à fait. Et c'est là où il est sans doute plus difficile à traquer. Alors, on a aussi un article très intéressant sur les fake news qui est fait par Michel Gousseau, qui est un spécialiste des États-Unis et dont l'intérêt est de montrer, je dirais, la profondeur historique de la question, c'est-à-dire qu'il analyse très bien la position des pères fondateurs de la nation américaine qui mettent en avant la liberté de la presse et non la vérité. Et s'il faut choisir entre la liberté de la presse et la vérité de ce que dit la presse, on choisit la liberté. Donc il y a
il y aurait une façon de légitimer ce que Donald Trump ferait avec les fake news dans ce propos.
Alors, je vous rappelle juste que fake news, c'est Trump qui utilise le terme pour désigner les informations du New York Times, du Washington Post, etc.
Les informations de l'ennemi ou des ennemis du Trumpisme.
C'est ça. Ce sont ces ennemis qui disent des choses fausses. Et lui, il va, par la voix de sa fameuse porte-parole, avancer des vérités alternatives. Mais lui ne se dit pas dans les fake news, il se dit dans une vérité alternative. Alors, je vais juste parler du troisième ensemble quand même important du numéro.
Bien sûr.
Ce sont 5 articles qui tournent autour de la fabrication d'objets archéologiques. Alors, nous avons un article d'abord d'un spécialiste de la détection des faux, avec les méthodes les plus scientifiques, mais qui montre bien que ce n'est pas infaillible.
Même les détecteurs peuvent se laisser avoir.
Peuvent se laisser avoir.
Leurrer.
D'autant plus que les faussaires sont aussi à l'affût des nouvelles techniques et qu'ils essayent d'éviter d'être pris.
Les objets archéologiques anciens.
Oui, les objets archéologiques anciens. Donc, on a un article parlant du trafic des objets d'art étrusques, un autre sur les arts océaniens et 2 sur les arts précolombiens. Et qui tous montrent que la notion de faux est quand même difficile à manier, hein, qu'est-ce qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui relève après tout d'un artisanat prolongé, comment est-ce que il faut déterminer qu'un objet est vrai, ce n'est pas si simple.
Mm-hmm. Il y a d'excellents faux. Il y a des faux tellement...
Alors, c'est même pas ça qu'ils mettent en avant, c'est que des objets qui ont été fabriqués, par exemple, au XVIe siècle, après la conquête,
en
Amérique latine,
oui.
Ces objets peuvent être considérés comme des faux dans la mesure où ils se présentent comme antérieurs à la conquête. Mais ils révèlent aussi quelque chose de leur moment de fabrication, c'est-à-dire du XVIe siècle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, un faux, là? C'est pas si simple à définir.
Donc, c'est relatif aussi au temps.
C'est relatif au temps, et ça pose encore d'autres problèmes. Il y a un article qui pose la question, un objet qu'on a admiré comme un chef-d'œuvre pendant 50 ans, au bout de 50 ans, on détermine que c'est un faux. Et alors, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on ne l'admire plus?
Même relativisme qu'on pouvait retrouver dans les copies en peinture.
Je ne dis pas que c'est du relativisme, là. Je dirais que c'est une analyse nuancée, et subtile. Voilà.
Donc,
voilà,
oui. Entre justement une position relativiste et la subtilité qu'il faut pour juger d'une œuvre, la limite est ténue.
Oui, sûrement, sûrement. Mais bon, je pense qu'il faut argumenter chacune de ces décisions.
Bien sûr.
Alors, je peux ajouter
oui,
juste une chose.
Oui, je vous en prie.
J'ai eu l'impression d'ouvrir la boîte de Pandore en parlant du faux. Mm-hmm. Et on aurait encore de quoi faire plusieurs numéros. Mm-hmm. J'ai un regret, c'est de ne pas avoir abordé la question des rumeurs. Là aussi, les fausses rumeurs. Comment elles naissent, à quoi elles servent, etc. On sentait un beau sujet
qui est un sujet d'historien très
classique et de sociologue. Les
rumeurs révolutionnaires ou
la rumeur ou la rumeur d'Orléans étudiée par Edgar Morin. Donc
alors,
on avait.
Mais c'est du faux.
Oui, c'est des fausses rumeurs. La rumeur d'Orléans, c'est raconter que des femmes sont enlevées et disparaissent.
Bien
faux.
Sûr, bon. C'est faux.
Mais on a aussi les rumeurs de la guerre de 14. C'est très intéressant, ça, parce que y a une rumeur sur les atrocités allemandes, bon, produites pendant la guerre de 14. Et puis, on décide qu'il n'y en a pas eu dans les années 20. Parce qu'il y a quand même un fort mouvement de réconciliation franco-allemande, on laisse de compter les atrocités. Et les travaux actuels des historiens montrent qu'il y a bien eu des atrocités, mais pas celles qu'on racontait à l'époque.
Pas celles des rumeurs.
Non, celles des rumeurs parlaient de mains coupées des enfants. Et ça n'a jamais existé. Par contre, il y a eu des sévices brutaux contre des populations civiles, mais pas le contenu de la rumeur.
Et qu'est-ce qui vous a fait ne pas choisir la rumeur dans le numéro ?
Eh bien, on n'avait plus de place. C'est tout bête.
D'accord, c'est question d'espace, pas de concept.
Mais on a encore un article intéressant sur les personnalités multiples. Ça aussi, c'est aussi une question. L'imposture. Qu'est-ce qu'un imposteur ? On aurait pu le traiter plus à fond, mais il y a un article qui traite de la personnalité multiple de Romain Gary. Et qui est tout, Gary Ajar, mais c'est pas seulement Ajar, c'est aussi d'autres personnalités.
Et on peut dire d'Ajar qu'il est non pas un faussaire, mais un imposteur.
Ben, on en discute. Ouais. On en discute. Ça, vous ne ferez pas l'économie de la lecture de l'article qui est effectivement très subtil.
Formidable, formidable. Donc, au fond, on pourrait se demander si nous avons des moyens en rationaliste, de lutter contre les faussaires. Au fond, ce que vous êtes en train de nous dire, peut-être, Fabienne Bock, c'est que il n'y a pas de lutte frontale contre le faux. Il y a de l'intelligence de la question, de la subtilité à déployer, des analyses idéologiques à faire.
Oui, moi, je crois que on a les moyens, généralement, quand en réunissant plusieurs spécialistes, plusieurs compétences, on a les moyens de détecter les faux. Et c'est important de le faire. Mais la question fondamentale, c'est quand même, pourquoi ça marche?
Pourquoi on se laisse leurrer?
Ben voilà, pourquoi le protocole des sages de Sion peut encore fonctionner aujourd'hui? C'est hallucinant.
Pourquoi
Donc,
plus
on
c'est
a démontré, gros on l'a démontré que c'était un faux. Bon, ça marche toujours. Donc, pour moi, c'est ces questions-là qui sont essentielles, finalement. C'est qu'est-ce qui fait qu'on a envie de croire certaines choses et pas d'autres. Alors, je pense toujours pour ce protocole des sages de Sion, ça rencontre certainement cette tendance actuelle au complotisme, hein, qui se répand aussi beaucoup sur Internet. Donc, ça rentre dans tous ceux qui ont une idée de, que, bon, on ne nous raconte pas la vérité, il y a des complots, il y a des gens qui, etc. Mais c'est ces questions-là qui, pour moi, sont essentielles. Je pense que on peut établir les faux, on en a les moyens. Internet, comme le disait le mois dernier Michel Leduc, c'est la pire et la meilleure des choses. C'est-à-dire, c'est à la fois la possibilité de tout trouver et de tout contrôler en même temps. Donc, on a les moyens de savoir, mais la tâche qu'on devrait se donner, c'est plutôt de réfléchir à ce qui permettrait de détourner les gens de croire des choses fausses.
Est-ce qu'il vous semble que le terme nouveau d'infox est un bon terme?
C'est assez joliment trouvé, oui, je pense que c'est une bonne...
Parce qu'il y a toujours de l'intoxication.
Oui, tout à fait.
Alors, et des fausses informations.
Absolument, infox me paraît un bon mot. Alors ça renvoie aussi, c'est un autre aspect qu'on aurait pu développer. Après tout, l'intoxication de l'ennemi, c'est le boulot normal des services de sécurité. Et donc, on a des tas d'exemples fabuleux d'intoxication, et c'est courant. Mais l'exemple le plus connu, c'est l'opération Fortitude, qui, pour tromper les Allemands sur le lieu du débarquement, les Anglais et les Américains avaient réuni des chars d'assaut en caoutchouc gonflables.
Des faux,
pour faire croire aux Allemands que le débarquement se ferait plus au nord.
Du côté du Pas-de-Calais,
et même éventuellement du côté de la Norvège, et pas du côté de la Normandie. Donc c'est aussi la production de faux à destination des ennemis ou des concurrents qu'il faut intoxiquer, c'est aussi assez normal.
Ouais. Bon, eh bien c'est sur ces derniers mots que nous allons clore cette émission. Fabienne Bock, Guy Bruy, je vous remercie.
Merci.
Je renvoie donc au numéro 208 de Raison Présente, intitulé « Du faux », que vous pouvez commander en ligne sur le site de l'Union Rationaliste. Je remercie Marie Lepeintre et Dany Journeau qui ont rendu possible cette émission et je vous dis au mois prochain.